Chapitre 36, la promesse du Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous demande pas d'accomplir par nos propres forces l'œuvre qui est devant nous. Il désire nous assister dans toutes les circonstances où nos ressources seraient insuffisantes. Il a promis de nous envoyer l'Esprit Saint pour nous venir en aide chaque fois que nous sommes embarrassés, pour raffermir notre espérance, éclairer nos esprits et purifier nos cœurs. Peu avant sa crucifixion, le Sauveur dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Christ a promis de transformer son Église, de lui communiquer la lumière céleste reflétant la gloire d'Emmanuel. Sa volonté est que chaque chrétien soit environné d'une atmosphère de lumière et de paix. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, mettant de côté le moi, permet au Saint-Esprit d'opérer dans son cœur. Quel fut le résultat de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un Sauveur ressuscité fut proclamée jusqu'aux extrémités du monde habité. Le cœur des disciples était si rempli de l'amour de Dieu qu'ils se sentaient poussés à se rendre partout, en déclarant, « Loin de nous la pensée de nous glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voir. La proclamation de la vérité, telle qu'elle est en Jésus, soumettait les cœurs à la puissance du message. L'Église voyait venir à elle des convertis de toutes les directions. Des apostats venaient au Seigneur. Des pécheurs s'unissaient aux chrétiens pour rechercher la perle de grand prix. Ceux qui s'étaient opposés violemment à l'Évangile devenaient ses champions. La prophétie s'accomplissait, le faible était comme David, et la maison de David comme l'ange de l'Éternel. Chaque chrétien constatait chez son frère la bienveillance et l'amour divin. Un intérêt unique prévalait. Un sujet d'émulation primait tous les autres. La seule ambition des croyants était de ressembler au Christ et de travailler à l'avancement du règne de Dieu. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Par les efforts des disciples, des hommes capables furent ajoutés à l'Église. Ceux-ci, après avoir reçu la parole, consacrèrent leur vie à faire connaître à d'autres l'espérance qui avait rempli leur cœur de paix et de joie. Des centaines proclamèrent le message, « Le royaume de Dieu est proche. » Ni l'intimidation, ni les menaces ne pouvaient les arrêter. Le Seigneur parlait par eux, et où qu'ils se rendissent, les malades étaient guéris, et l'Évangile, prêché aux pauvres. Le Seigneur peut travailler avec une grande puissance lorsque les hommes se placent sous le contrôle de son Esprit. La promesse de l'Esprit est pour nous aujourd'hui aussi bien que pour les premiers disciples. Dieu désire revêtir de la puissance d'en haut des hommes et des femmes, comme il le fit au jour de la Pentecôte. À cet instant même, son Esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le besoin et qui acceptent sa parole. D'abord une unité parfaite. Il est à remarquer que ce fut après que les disciples réalisèrent une unité parfaite, après qu'ils eurent cessé de désirer la première place, que l'effusion de l'Esprit se produisit. Et le témoignage que nous avons à leur sujet après qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit est le même que celui qui en est donné avant. La multitude de ceux qui avaient cru, est-il dit, n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'Esprit de celui qui est mort, afin que des pécheurs puissent avoir la vie, animait toute la congrégation des croyants. Les disciples ne demandaient pas de bénédiction pour eux-mêmes. Ils étaient sous le poids du fardeau des âmes. L'Évangile devait être porté jusqu'aux extrémités de la terre, et ils désiraient être revêtus de la puissance que le Christ avait promise. C'est alors que le Saint-Esprit leur fut envoyé, et que des milliers se convertirent en un jour. Il peut en être de même aujourd'hui. Que les chrétiens mettent de côté toute dissension, et se consacrent au salut des âmes. Qu'ils se réclament, par la foi, des bénédictions de la promesse, et ils les recevront. L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte était la pluie de la première saison, et les résultats en furent glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Voici la promesse faite à ceux qui vivront au dernier jour, retournés à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare, je te rendrai le double. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Jusqu'à la fin. Le Christ a déclaré que la divine influence de l'Esprit serait avec ses disciples jusqu'à la fin. Mais cette promesse n'est pas appréciée comme elle le devrait. Et par conséquent son accomplissement ne se réalise pas comme il pourrait l'être. Il en résulte une sécheresse, une obscurité, une mort et un déclin spirituel. Des sujets de peu d'importance occupent la pensée, et la puissance divine nécessaire à la croissance et à la prospérité de l'Église, entraînant avec elle toutes les autres bénédictions, fait défaut, bien qu'elle soit offerte dans toute sa plénitude. C'est l'absence de l'Esprit qui rend le ministère évangélique si faible. On peut posséder la science, les talents, l'éloquence, tous les dons naturels ou acquis. Mais sans l'Esprit de Dieu, aucun cœur ne sera touché, ni aucun pécheur gagné au Christ. Si au contraire les enfants de Dieu sont unis au Sauveur, s'ils reçoivent l'effusion de l'Esprit, les plus pauvres comme les plus ignorants d'entre eux posséderont une puissance qui agira sur les cœurs. Dieu fera d'eux ses représentants, et ils exerceront la plus haute influence dans l'univers. Pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don de l'Esprit, puisque c'est par lui que nous recevons la puissance divine? Pourquoi n'en parlons-nous pas, ne prions-nous pas, ne prêchons-nous pas à ce sujet? Le Seigneur est plus disposé à nous le donner que les parents le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Chaque prédicateur devrait intercéder auprès de Dieu pour être baptisé du Saint-Esprit. Que des groupes se forment pour demander la sagesse céleste, afin de savoir comment faire des plans et les exécuter. Que des hommes prient tout particulièrement pour que Dieu baptise de son Esprit ses missionnaires. La présence du Saint-Esprit chez les serviteurs de Dieu donnera à la présentation de la vérité une puissance que tous les honneurs du monde ne sauraient fournir. L'Esprit donne la force de soutenir la lutte dans toutes les circonstances de la vie, d'affronter l'opposition de ses parents, la haine du monde, et de se rendre compte de ses propres imperfections. Leur zèle pour le Seigneur poussait les disciples à proclamer la vérité avec une grande puissance. Ce même zèle ne devrait-il pas brûler nos cœurs et nous amener à parler avec hardiesse de l'amour rédempteur du Christ crucifié? L'Esprit de Dieu ne devrait-il pas, aujourd'hui, en réponse aux prières ferventes et persévérantes, remplir les hommes de puissance pour le service de Dieu? Pourquoi donc l'Église est-elle si faible et si peu spirituelle? C'est le privilège de chaque chrétien, non seulement d'attendre, mais de hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui se réclament de son nom portaient du fruit à sa gloire, avec quelle rapidité la semence de l'Évangile serait répandue dans le monde entier. La moisson serait bientôt mûre, et le Christ reviendrait pour rassembler les précieuses gerbes. Mes frères et mes sœurs, demandez avec instance le Saint-Esprit. Le Seigneur est disposé à accomplir toutes ses promesses. Ouvrez vos Bibles, et dites, j'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire. Je me réclame de ta promesse. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Le Christ a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. L'arc-en-ciel qui est au-dessus du trône de Dieu nous donne l'assurance qu'il est le Dieu de vérité, et qu'en lui il n'y a aucune variation ni ombre de changement. Nous avons péché contre lui et ne méritons pas son amour. Cependant il met sur nos lèvres ses paroles merveilleuses, à cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Il a promis de nous écouter lorsque nous venons à lui pour confesser nos péchés. Il met son honneur à accomplir sa parole à notre égard. Le Christ envoie ses messagers pour communiquer sa volonté à ses serviteurs partout où ceux-ci se trouvent. Il marche au milieu de ses églises. Il désire sanctifier, élever et ennoblir ses disciples. L'influence de ceux qui croient en lui sera en ce monde une saveur de vie. Le Sauveur tient les étoiles dans sa main droite, et par elles il veut éclairer le monde. Il désire préparer ainsi son peuple pour un service plus élevé dans l'Église céleste. Il nous a confié une œuvre immense. Accomplissons-la fidèlement. Montrons dans nos vies ce que peut faire pour l'humanité la grâce divine. Lorsque le Saint-Esprit prendra possession de nos membres d'Église, on cultivera au sein de nos communautés un idéal beaucoup plus élevé, dans les paroles, dans le ministère, dans la spiritualité. Les membres d'Église iront se désaltérer à la source des eaux vives, et ceux qui travailleront sous le regard du Christ révéleront l'Esprit du Maître dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes, et s'encourageront mutuellement à poursuivre l'œuvre finale dans laquelle ils sont engagés. On constatera plus d'unité, plus d'amour. Ce sera pour le monde une preuve que Dieu a envoyé son Fils pour mourir en faveur des pécheurs. La vérité divine sera exaltée. Et, éclairés par la parole de Dieu, ils la comprendront toujours davantage. Il m'a été montré que si le peuple de Dieu ne fait aucun effort, mais compte sur l'effusion de l'Esprit pour se débarrasser de ses torts et de ses erreurs. S'il attend ce moment-là pour se purifier des souillures de la chair et de l'esprit, afin de prendre part au grand cri du troisième ange, il sera déçu. Le temps du rafraîchissement, ou de la puissance divine, ne sera que pour ceux qui s'y sont préparés en faisant ce que le Seigneur leur avait ordonné, à savoir, se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. L'Esprit ne nous dispense pas de la nécessité d'exercer nos facultés et nos talents, mais il nous enseigne comment les utiliser pour la gloire de Dieu. Les facultés humaines, lorsqu'elles sont contrôlées par la grâce divine, peuvent servir aux buts les plus nobles ici-bas et s'exercer encore dans la vie future. Pourquoi l'œuvre des disciples, accomplie avec zèle et par la puissance du Saint-Esprit, nous a-t-elle été rapportée ? Si ce n'est afin que le peuple de Dieu d'aujourd'hui s'en inspire pour redoubler d'ardeur dans son travail en faveur du salut des âmes? Ce que le Seigneur a fait par son peuple dans le passé, il est aussi essentiel, et même davantage encore, qu'il le fasse aujourd'hui. Tout ce qu'accomplirent les apôtres, chaque membre d'Église doit s'en acquitter. Et il nous faut travailler avec d'autant plus de zèle, et posséder une mesure de l'esprit d'autant plus grande que la recrudescence du mal exige que l'on adresse des appels plus résolus à la repentance.